Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, l'intégral foot qui reprend. Enfin, c'est de l'intégral sport ce soir, on va pas se mentir, parce qu'évidemment, il y a ce premier Grand Prix de la saison qui tient toutes ses promesses. On va dans un instant aller retrouver nos commentateurs vedettes pour nous permettre de suivre la fin de ce Grand Prix, le Grand Prix de Bahreïn. On avait quitté la Formule l'année dernière, fin de saison extraordinaire. Et bien, j'ai l'impression qu'on est reparti sur des bases sévères une nouvelle fois cette année. On suit également le foot avec les dernières minutes d'un match qui a pris beaucoup de retard, qui oppose Bordeaux à Montpellier. Nicolas Paolorsi est évidemment sur place. Bordeaux
Salut
va
Christophe.
Mal. Bordeaux va mal. Mené 2-0, il reste combien, Nico? Encore
Bordeaux est au bord du précipice, il reste 7 minutes, il y a 2-0. Les Bordelais qui sont en double supériorité numérique puisque les Montpelliérains ont pris deux cartons rouges et les occasions qui s'accumulent sur le but vraiment de Jonas Omlin. Bordeaux qui n'arrive pas à trouver la solution, ils ont frappé plus de 15 fois au but en deuxième mi-temps. Rends-toi compte, c'est colossal. Le ballon sur le côté gauche, peut-être on va suivre cette action avec Yacine Adli. Yacine Adli qui est dangereux depuis son entrée en jeu à la mi-temps. Le bon ballon Yacine Adli pour Mbanyang, une nouvelle fois une tête montpelliéraine. Ils sont vraiment mais valeureux, courageux ces Montpelliérains. Ils s'arc-boutent en défense et ils tiennent. 2-0 pour Montpellier, 7 minutes encore à jouer.
Et dans quelques instants, nous allons également suivre le coup d'envoi et suivre toute la rencontre qui va opposer Reims à Lyon. Ce sera avec Arnaud Valadon qu'on va retrouver dans un instant. Lionel Charbonnier est avec moi cet après-midi pour commenter tout ça. Salut Lionel. Il est là? Il est là ou il est pas là?
Oui, non,
il
salut, mon
sieste. Non, il a fini la sieste à 17h quand même.
À peine. Salut, mon top.
Ça va, Lionel, en pleine forme?
Bah écoute, ça va. Bon. Impatient de voir ce match, ça va être un beau match Reims-Lyon.
Bah on va voir si les Lyonnais font mieux que la semaine dernière, mais a priori à l'extérieur c'est pas trop mal. Arnaud Valadon est là, on va le voir tout de suite puisque le coup d'envoi sera donné dans 2 minutes. Salut Arnaud.
Salut Christophe, salut Lionel. Oui, les joueurs sont prêts. Le TOS est en cours avec des Lyonnais en opération. On va dire remontada entre guillemets, à 9 points du podium. Ils sont 10e, 41 points. Ils doivent à tout prix faire un sprint de folie dans ces 10 derniers matchs de Ligue 1. Et Peter Bosch a effectué seulement 4 changements par rapport aux 11 victorieux contre Porto, parce qu'en Coupe d'Europe ça marche bien pour l'Olympique Lyonnais qualifié en quart de finale d'Europa League. La composition lyonnaise: Lopez dans les buts, Luqueba Mendes en défense centrale, Malo Gusto à droite, Enrique à gauche. On a changé les deux latéraux, deux récupérateurs. Oussema Ouar qui fait son retour en tanke titulaire associé à Maxence Cacré, Tanguy Ndombele sur le banc, Paqueta en numéro 10 et les 3 attaquants: Carl Toko Ekambi à gauche, Tino Kadewere à droite et Moussa Dembélé, l'attaquant aux 10 buts cette saison Ligue 1. La composition rémoise rapidement, un 3-4-3 avec Rajkovic dans les buts, Buzifas Abdelhamid dans défense centrale, Fouquet piston droit qui fait son retour, l'international belge convoqué pour le prochain rassemblement avec les Diables Rouges, Islain Konan à gauche, de récupérateur Mounetsi Matusiwa et un trio d'attaque: Hornby le grand écossais avec Berisha et Kebal en soutien. Le coup d'envoi qui va être donné dans moins de 15 secondes avec les Lyonnais, un maillot assez particulier, tout de noir avec quelques un peu maillot dalmatien, j'ai l'impression. Je sais pas, Lionel
sont,
et Christophe.
Ils sont pas 101 quand même, hein, parce qu'autrement ça a beaucoup.
Non, ils sont pas 101, mais voilà, noir, un peu tacheté blanc. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi donné par l'Olympique Lyonnais, on dirait presque celui de Newcastle. Les Lyonnais qui vont donc attaquer tout de suite pour commencer le ballon avec peut-être Luqueba. On va s'appuyer sur Lopez derrière. 10 secondes de jouer et 0-0 entre
Reims et Lyon. On va vous retrouver dans quelques minutes, messieurs, mais on va se concentrer sur la fin du Grand Prix de Bahreïn, premier Grand Prix de la saison avec une paire magique. Oh là là, ce sont des vieux de la vieille de la Formule 1 qui sont avec nous, avec évidemment celui que vous connaissez tous, le king de la Formule 1, notre Jean-Luc Roy National. Salut Jean-Luc.
Et salut mon Chris, salut Lionel, bonjour à tous.
Ravi de te retrouver.
Salut Jean-Luc.
Accompagné par un de tes vieux complices, hein, là aussi. Hein. Vous avez fait des Grands Prix, vous avez écumé les circuits. Denis Chevrier est avec nous. Salut Denis.
Oui, bonjour.
Ravi aussi de t'avoir avec nous. Messieurs, on va tout de suite faire le point sur ce Grand Prix. On a eu une passe d'armes fabuleuse tout à l'heure, non pas entre Verstappen et Hamilton, ça c'était la saison dernière, mais entre Verstappen, il est toujours là, et Charles Leclerc et la Ferrari, les Ferrari qui sont de retour, et ça on s'en félicite évidemment, Jean-Luc.
Ah bah écoute, c'est absolument génial. Une nouvelle fois, je crois qu'on peut dire que cette nouvelle réglementation aérodynamique, évidemment un peu complexe à expliquer en quelques mots et à comprendre, faut simplement savoir que la tenue de route des monoplaces maintenant est en partie assurée par le dessous de la monoplace et non pas le dessus, de sorte que quand les pilotes sont dans les grandes courbes rapides, on va dire à 200-250 km/h, eh bien ils peuvent continuer à se rapprocher de leur adversaire devant, et c'est un régal de voir ces passes d'armes, puisqu'on a vu des dépassements successifs, comme tu le soulignais tout à l'heure, entre Leclerc et Verstappen. Ça a été grandiose, et l'écart n'est que de 2,9 secondes hein, à l'instant, entre Leclerc et Verstappen, maintenant engagé normalement dans le dernier stint, hein, le dernier relais de ce Grand Prix, après leur arrêt au stand. Ils sont tous les deux équipés sur la Ferrari et sur la Red Bull de pneumatiques médium, et on va tout faire pour aller au bout, naturellement, Denis, avec ça.
Ben, on peut l'espérer, on peut l'imaginer, mais quand on voit quand même que Pérez n'a fait qu'une quinzaine de tours avec le train de médium qu'il avait pris tout à l'heure, est-ce que des médiums vont être capables de faire tous les tours qui restent? Ça va certainement être une des questions de la course. Un autre point qu'on peut remarquer, c'est qu'avec ses softs, eh bien Pérez, il va pas plus vite que Leclerc, Verstappen et Sainz, qui eux ont des médiums. Donc il est peut-être un peu en retrait aujourd'hui.
Oui, justement, on a parlé, Christophe, on va parler de ce duel, hein, parce que là aussi, ça se bat devant entre Leclerc et Verstappen. Rien n'est joué entre le Monégasque et le Batave, le Hollandais qui porte le numéro 1 sur le museau de sa Red Bull, mais rien n'est joué derrière pour la troisième place, la dernière place du podium, entre l'Espagnol Carlos Sainz sur la Ferrari et Sergio Pérez, qu'évoquait à l'instant Denis. Sa monoplace est équipée de pneumatiques soft, alors on peut s'attendre effectivement à ce que Pérez soit obligé, Denis, de repasser par la voie des stands. Là, il tente le Vatou, il est revenu à 1,9 seconde de Sainz.
Oui, mais quand on voit que les autres, ils ont fait une quinzaine de tours en gros avec leur soft, il en reste quand même assez nettement plus que 15 à faire, donc je pense que ça va être compliqué.
Ouais, ça va être difficile. Et il s'est arrêté au 33e tour, hein, il y a 5 tours exactement. Donc Sergio Pérez, même s'il a l'habitude de ménager ses pneumatiques, ça va être difficile. En tout cas, Leclerc devant Verstappen, Sainz devant Pérez, Hamilton devant Russell. Voilà le classement de ce Grand Prix à 18 tours de l'arrivée.
Eh bien, on revient vous voir dans quelques instants pour la suite et la fin de ce premier Grand Prix de la saison. Charles Leclerc va-t-il signer son retour et le retour des Ferrari sur la plus haute marge des podiums? Le suspense est garanti et on va le vivre en direct sur RMC. Les dernières secondes à Bordeaux. Bordeaux toujours mené 2-0 par Montpellier. Montpellier qui est à 9 contre 11. Bordelais, mais ça ne suffit pas. Il faudrait quoi? Qu'il n'y ait plus que 5 joueurs en face pour que Bordeaux gagne un match, Nicolas?
Je sais pas. Franchement, arrête de remuer le couteau dans la plaie comme ça, tu me fais mal. Tu me fais mal.
T'as des années comme ça.
Ah ouais, ouais. Il reste 45 secondes, 2-0 pour Montpellier. Les buteurs Wailly et Mollet et les occasions qui, franchement, sont là, hein, sur le but de Homeline. Mais Bordeaux n'arrive pas à marquer. Attention à Thibaut Clidjé pour son premier match en Ligue 1 qui crochette à l'entrée de la surface de réparation. C'est plutôt bien fait. Yacine Adli qui va chercher en relais. Mais quelle défense de Montpellier. Franchement, ils auront été incroyables dans le courage est porté par un Jonas Omlin dans le but qui a été fabuleux, le dédoublement de Clidjé avec Dil Rossoun, mais il est contré. Dil Rossoun quand même qui va éliminer une fois, deux fois, qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation, c'est contré. Amedozic qui récupère ce ballon, qui essaye de frapper, et c'est un nouvel arrêt de Jonas Omlin. On va entrer dans le temps additionnel dans quelques secondes. 2-0 pour Montpellier sur la pelouse de Bordeaux. Je vous rappelle qu'il y a désormais 5 points d'écart entre les Girondins 20e et Saint-Etienne barragiste 18e, que c'était un match qu'on annonçait comme une finale du côté de Bordeaux. Ils sont totalement trompés, hein, dans l'approche de ce match, notamment en première mi-temps où ils n'ont pas tiré une seule fois au but avant le pénalty d'Albert Ellis. Pénalty arrêté. Donc voilà, tous les faits de jeu ont été contraires aux Girondins de Bordeaux. 5 minutes de temps additionnel, l'action avec Yacine Adli au bord de la surface de réparation, mais l'intervention parfaite de Tuller, le Brésilien, qui va dégager. Il reste donc 5 minutes dans ce match et Montpellier mène 2-0.
Et il en reste beaucoup plus à Reims, puisque le match entre Reims et l'Olympique Lyonnais vient de débuter. Arnaud Valadon,
il en reste 85, donc on a le temps effectivement. 0-0 au stade Auguste Delaune, et des Rémois plutôt entreprenants. En tout cas, on ne voit pas les Lyonnais, hein, sur ce début de partie. Christophe et Lionel, on a vu deux corners qui n'ont rien abouti pour les Rémois tout à l'heure, tirés de la gauche. On a essayé à la fois de le tirer au premier poteau par Berisha une fois et ensuite de le jouer à la Rémois. C'est assez local, mais voilà, ce sont plus les Rémois qui sont bien rentrés dans cette partie. On attend de voir la première réelle incursion lyonnaise, peut-être avec ce long ballon Thiago Mendes qui a essayé d'alerter Dembélé, mais qui est très seul, trop seul, et le ballon directement pour Rajkovic, le gardien rémois. 0-0 et bientôt 6 minutes de jouer à Reims.
On va voir un peu ce que donne cette équipe lyonnaise, parce qu'en championnat et en Coupe d'Europe, Lionel, c'est pas du tout le même visage que
Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Hein.
Ah, c'est vraiment ça.
Exactement. C'est, on va voir quel visage ils vont avoir. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas les clés, les Lyonnais. Et bon, c'est aussi parce que je pense que les Rémois les cachent bien, ces clés, notamment dans le milieu de terrain. Et tout à l'heure, on a vu Conan sur son côté gauche. Honnêtement, il a mystifié. il a mystifié Kadewere et Malo Gusto, qui étaient tous les deux à un mètre l'un de l'autre. Il leur a fait, on leur demandera ce qu'il leur a fait, parce que je crois qu'ils n'ont toujours pas compris.
Ah, ils ont pris un vent. Et en plus, il y a du vent cet après-midi à Delon. Attention, Lionel, juste bien sur son de côté. Malo Gusto. C'est renvoyé par Monetti. Attention, deuxième poteau avec Thomas Fouquet, le Belge, qui va s'appuyer sur son compère. On aime beaucoup. Il y a une très grosse Belge touch du côté de Reims. C'est Buzy qui dégage. 0-0, 6 minutes 30 de jouer.
Allez, les dernières secondes à Bordeaux. Bordeaux va-t-il sauver l'honneur ou une nouvelle fois perdre et continuer de s'enfoncer? Enfin, ils peuvent plus s'enfoncer, mais d'un autre côté, oui, malheureusement, non. Nicolas.
Là, tu
on
peux
peut
plus,
pas
là.
Descendre plus bas. Hein.
Attention à ce ballon dans la surface de réparation comme un symbole. Ce bon ballon de Ricardo Manga. S'il y a Albert Ellis, il y a Mbaye Niang dans les 5-50. Et une nouvelle fois, on se trompe. Ça retombe dans les gants de Jonas Somlin. Il reste combien de temps à mon chrono? 1 minute 30. Une grande minute, une grosse minute 30. Et Bordeaux va perdre ce match qu'on avait coché comme peut-être le tournant de la saison pour les Girondins. Ouais, ah oui. Parce que tu avais eu ce match Lionel contre Troyes il y a deux semaines où ils étaient passés complètement à côté. Après, tu allais à Paris. Donc, même s'il y avait mieux à faire à Paris, bon, voilà, tu savais que Bordeaux allait repartir.
Enfin, contre Paris, c'était points. Peut-être plus facile qu'on ne pense. Hein.
Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est dramatique. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Et le match mut Atlantique est, mais vide. Il n'y a plus aucun bruit. C'est complètement.
Les spectateurs sont restés tout de même, Nico?
Ils sont restés, mais le silence de plomb, complètement mutique. Les ultras qui ont arrêté d'encourager depuis bien longtemps. Il y a eu une embrouille à la mi-temps entre Benoît Costil et Florian Brunet, le porte-parole des ultras, parce que Costil était juste devant le cop des ultras et on ne sait pas pourquoi les ultramarines ont pris en grippe Benoît Costil, qui est pour le coup un des soldats les plus fidèles des Girondins depuis 5 ans, alors que ça va mal. À chaque fois, Benoît Costil, capitaine de cette équipe, est venu assumer, que ce soit face à la presse ou en dehors, a fait des actions pour essayer de sauver le club. Bref, ça part un peu en sucette. Et attention à cette fin de saison, à l'entrée de la surface. J'avais Rodil Rossoun. Il reste quelques secondes dans le temps additionnel. Probablement la dernière occasion. Ricardo Mangas qui essaie de travailler, mais Montpellier défend très bien. Il n'y a rien à dire. Les Montpellierains auront fait leur match malgré cette double infériorité numérique. Grégersen qui va essayer de centrer. Une nouvelle fois, Jonas Omlin qui s'impose dans les airs, dans ses 6 match, mètres. Hein. Et là, il a fait un immense match. Bah, déjà, il a arrêté un pénalty. Alors, pénalty pas très bien tiré, certes. Mais derrière, il aura sorti un nombre de ballons incalculables en deuxième mi-temps sur des frappes d'Adli, sur des frappes de Wang, sur des frappes de Dil Rossoun. Costil qui contrôle ce ballon, qui va relancer sur le côté droit avec Grégersen. À mon avis, c'est la dernière pour les Girondins de Bordeaux qui vont s'incliner cet après-midi. Une nouvelle fois, on a envie de dire Bordeaux qui n'a plus gagné depuis 2 mois en Ligue 1. Yacine Adli pour Ignatenko, 35 mètres du but d'Omlin sur le côté droit. Dil Rossoun qui revient sur son pied gauche. Il porte trop son ballon. Dil Rossoun, il essaye de frapper. Ça part 5 mètres au-dessus du but de Jonas Omlin. Et attention, attention à la réaction des supporters à la fin de ce match. Parce qu'il y a deux semaines, on avait frôlé l'envahissement de terrain. Je vais peut-être rester un peu à l'antenne après si jamais il y a quelques débordements. Parce qu'à la mi-temps, ça avait été très très chaud déjà. Et il se peut qu'on ait du mal à contenir tous les ultras. Il y a une horde de stadiers, là, une cinquantaine de stadiers avec des gilets orange qui sont devant les ultramarines bordelais pour éviter tout débordement au coup de sifflet final. Le ballon pour Jonas Omlin à mon chrono, c'est là, terminé.
En même temps, c'est pas que les bordelais ont lâché le match, quoi. Ils les ont
c'est
eu, les
fini,
occasions.
Lionel, c'est fini, le match de la honte. Le match de la honte pour les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent 2-0, qui n'auront rien montré en première mi-temps et qui, même en double supériorité numérique, n'auront pas su gagner ce match. Danilo Ignatenko, l'Ukrainien, est en pleurs. Le maillot sur les yeux au milieu de terrain. Benoît Costil est dépité. On voit des joueurs complètement abattus. Yacine Adli, les mains sur les hanches. Il y a un public qui ne dit rien, mais qui va forcément réagir. Énorme coup dur pour Bordeaux qui reste bon dernier du championnat, défaite 2-0 contre Montpellier.
On va évidemment débriefer ça dans un instant. Bordeaux qui se dirige tout droit vers la Ligue 2. Rapidement un point sur le Grand Prix avec Verstappen qui vient de s'arrêter une nouvelle fois, Jean-Luc.
Et oui, c'est très important, Chris, puisque Verstappen, qui évoluait à 4 secondes environ de Charles Leclerc et qui était deuxième, vient de repasser par la voie des stands. Verstappen, dont la monoplace, la Red Bull à moteur Honda, était chaussée de pneumatiques médium, eh bien, on doit chausser des pneumatiques slick. Est-ce qu'on a décidé de, évidemment, chasser le record du tour? Record du tour synonyme de points supplémentaires au classement. On a arrêté également Sergio Perez avec sa monte pneumatique soft. Denis, on savait bien qu'il n'irait pas au bout, hein, Sergio Perez.
Oui, ça, on le savait. La question, c'était quid des médiums de Verstappen? Eh bien, la réponse, c'était que sa dégradation était très supérieure à celle des mêmes pneus de Charles Leclerc. Et donc, pour lui, il s'imposait effectivement de changer et de tenter autre chose.
Donc ça, là, ça veut dire qu'on se dirige vers un doublé Ferrari ou Verstappen peut envisager de reprendre Sainz, messieurs?
Alors évidemment, là, Verstappen, avec cet arrêt au stand, a concédé pas mal de retard. Hein. Ça coûte environ 22-23 secondes, l'arrêt au stand et le passage par la voie des stands. Donc Verstappen se retrouve actuellement troisième. Il est à 9 secondes et demie de Carlos Sainz. 44 tours ont été couverts, c'est-à-dire qu'il en reste un peu moins de 13. Il va falloir observer avec attention quel est le rythme adopté par Verstappen. Ouais. On arrête Sainz à l'instant. Sainz au stand, alors on va voir quelle monte pneumatique on choisit pour Sainz.
On va lui détendre, non?
Alors, Sainz s'était arrêté, oui, a priori. Sainz s'était arrêté au 33e tour. Il avait monté les pneumatiques médiums il y a 11 tours exactement. Voilà, Verstappen se retrouve maintenant deuxième à 27 secondes de Charles Leclerc. Je pense qu'on va certainement arrêter Charles également. Et Hamilton également. Hamilton au stand. Ah ben, voilà, beaucoup de bouleversements là. On va observer ce qu'on monte du côté de Carlos Sainz. On vous l'avait dit, hein, que ce premier Grand Prix, ça allait être une énorme surprise un petit peu pour tout le monde. On a monté les rouges. Les rouges pour Carlos Sainz. Les pneumatiques soft pour Carlos Sainz au 44e tour. Voilà une indication. J'ai l'impression qu'on va terminer pratiquement tous en soft, hein, Denis, là.
Ben, ça y ressemble beaucoup.
Ouais,
oui.
Ouais.
Oui, absolument. Il reste 12 tours. Les softs ont clairement montré qu'ils étaient capables de le faire, avec en plus une piste qui s'est chargée de gomme. Donc je crois que les softs, faudrait vraiment être original pour ne pas en mettre maintenant.
Très bien. Charles Leclerc reste donc pour l'instant en tête de ce Grand Prix de Bahreïn. Reste combien de tours encore à couvrir, Jean-Luc?
Il reste 12 tours maintenant. 12 tours. Et tout le monde s'arrête là. Tsunoda et Hamilton également.
Oh, bah, tout le monde s'arrête. C'est la fête. Ouais. Allez, à tout de suite pour la fin de ce Grand Prix de Bahreïn. Je vous rappelle donc que Bordeaux vient de s'incliner une nouvelle fois, battu 2-0 par Montpellier, et qu'on va évidemment rentrer un peu plus dans la rencontre entre Reims et Lyon dans quelques instants avec Arnaud Vallon et avec Lionel Charbonnier. Toujours 0-0 entre les deux formations. On reviendra aussi sur ce qui s'est passé cet après-midi, notamment la lourde défaite du Paris Saint-Germain qui s'est incliné 3-0 en termes légaux.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
Le foot et la Formule 1 au programme de cette fin d'après-midi, de cette fin de dimanche après-midi sur RMC, avec un coup peut-être qui va changer la situation et la donne dans cette fin de Grand Prix de Bahreïn, avec la voiture de Pierre Gasly qui a pris feu. Jean-Luc, c'était impressionnant des images de cette voiture. On a vu Pierre Gasly sortir très rapidement de sa voiture. C'était pas aussi impressionnant que Grosjean il y a deux ans, mais enfin tout de même il a eu un peu chaud aux fesses, le pilote français.
Oui, absolument, Chris. Effectivement, malheureusement, au 45e tour, nous en sommes à 46 maintenant, eh bien, le moteur Honda de l'AlphaTauri de Pierre Gasly, qui évolue en 8e position, hein, qui était bien dans les points, eh bien, malheureusement, ce moteur a pris feu. Il s'est arrêté sur le bord de la piste, et ce qui a entraîné l'intervention des commissaires, naturellement, pour maîtriser l'incendie et l'apparition du safety car. Et tu le sais, la conséquence du safety car, eh bien, c'est que l'écart entre Leclerc et Verstappen qui s'était arrêté, chaussé des pneumatiques soft au 43e tour, eh bien cet écart qui était de 35 secondes a fondu. Il n'est plus que de 4 secondes 7 maintenant. Alors Charles Leclerc, lui aussi, du côté de chez Ferrari, on a réagi. On a arrêté Charles Leclerc, on a chaussé des pneumatiques soft. Ah bah là, c'est simple, hein. On est en soft du côté de Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell, Magnussen, Bottas, Ocon. Denis, il est certain que l'intervention de ce safety car a modifié la stratégie des équipes et des pilotes.
Ah ben là c'est sûr, de toute façon c'est souvent le cas d'une safety car, c'est toujours d'une frustration terrible quand on est le leader, quand on est dans la peau aujourd'hui d'un Leclerc qui était en train d'avoir toutes les cartes en main. On l'a bien vu à l'occasion du dernier Grand Prix de l'année dernière, à quel point ça pouvait tout transformer. Et là ben, on va repartir, pour nous spectateurs ça va être un régal assurément, mais dans la peau de Charles Leclerc, quand on sait ce que Verstappen sait faire à une relance, il y a de la pression.
Ah oui, en fait tout va se passer comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va sans doute assister à un ou deux tours où la bagarre va être totale entre les deux, c'est-à-dire que toute l'avant, il n'y aurait pas moyen quand même de garder les positions, de garder les écarts en seconde lorsqu'une safety car entre sur la piste, parce que là c'est un peu triché quand même pour ce pauvre Charles Leclerc là.
Alors, je te réponds que c'est la course automobile, hein, les règlements
ça. La course automobile, il n'y a pas des voitures de sécurité normalement, hein, à votre grande époque, les gars, hein, Jean-Luc.
Ah
pas
oui,
beaucoup,
à l'époque,
hein.
À l'époque, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, mais disons que c'est un système et un dispositif qui est venu des États-Unis, pour être clair, parce que ça permet évidemment de sécuriser le travail des commissaires. En l'occurrence, les commissaires sont en train d'essayer d'évacuer la monoplace de Pierre Gasly, qu'il a sagement garé d'ailleurs à l'intérieur de la trajectoire, sur le côté droit de la piste, mais elle est encore en vue vue des pilotes et on ne peut pas continuer à vitesse normale, je dirais, parce que on imagine évidemment les conséquences d'un choc à pleine vitesse entre une monoplace lancée peut-être à 200 ou 250 km/h et cette monoplace immobilisée. Donc il faut la retirer. Alors la direction de course a le choix. On peut faire intervenir soit le virtuel safety car, tu sais. Dans ce cas-là, les pilotes sont tenus de respecter une vitesse limite et puis l'écart est maintenu entre les hommes. Et bien là, ouais, du côté de la direction de course, on va peut-être en parler après, on ne sait jamais. Eh bien, c'est Nils Wittich, semble-t-il, là, ex-directeur de course du DTM qui officie. Hein. Ouais, c'est le nouveau, le remplaçant en quelque sorte de Vas-y. Michael Massey. Et il y aura aussi Eduardo Freitas, qui est l'ex-directeur de course du WEC. On a choisi le safety car, pas le virtual. Donc ça veut dire que l'écart entre Leclerc et Verstappen est tombé à zéro. C'est le cas aussi hein, pour Sainz, Perez, Hamilton, Russell. Enfin, ça remet tout le monde dans le coup. Et pour répondre à ta question, Chris, eh bien, il reste un peu plus de 10 tours à parcourir. C'est pas un tour qu'on va voir là, si tout va bien. C'est peut-être 5-6 tours ouais, à rythme de course. Ça va être génial.
Ah non, ça va être super. Ça va être super, mais c'est vrai, comme le disait Denis, c'est très frustrant pour celui qui est en tête et qui avait quand même une avance considérable et qui se dirigeait tranquillement vers une première victoire cette saison. Eh bien là, rien n'est fait. Le suspense est relancé. On va vivre cette fin de course avec frénésie, évidemment, et avec vous, messieurs, dans quelques instants. Une fois que la voiture de sécurité sera partie, hein, ça serait bien qu'elle s'en aille, celle-là. Allez, on revient dans un instant vous voir. On repart à Reims-Lyon. On suit le match avec Arnaud Valadon, Lionel Charbonnier également, avec nous. Toujours 0-0, messieurs. Ce match, pour l'instant, met un peu de temps à débuter, hein, Arnaud. Hein.
Ouais, mais les Lyonnais sont enfin dans leur match. C'est après mieux. Un début un petit peu timide, Christophe Lionel, les Lyonnais sont bien. Ils se sont créés la plus belle occasion de cette partie avec plutôt un bon Malo Gusto hein, sur son côté droit qui va centrer. Tino Kadewere un petit peu juste et ça vient au deuxième poteau sur Aouar qui met bien l'intérieur du pied comme il faut, sauf qu'il y a Maxime Buzy, le défenseur et moi, qui est là pour détourner, pas au dernier moment, mais quand même détourner du cadre parce que ce ballon Rajkovic était battu. Donc la plus belle occasion pour les Lyonnais, la plus belle occasion de cette partie. Et voilà, sans être ultra dominateurs, ils sont quand même bien rentrés dans cette partie, les Lyonnais. Là les Rémois, ils sont tout simplement dans leur camp hein. Bon, les Lyonnais manquent un petit peu de tranchant et de justesse technique, Lionel, dans les 30 derniers mètres, mais globalement ils sont en train de faire
ils ont trouvé les clés du milieu de terrain, ils sont en train de gagner cette bataille maintenant. L'action que tu as décrit, Arnaud, était vraiment très belle hein, très collective sur le côté droit. On voit, c'est une des armes hein, pour les Lyonnais de passer par les côtés face à une défense de ligne très regroupée des Rémois. Et bon, on va voir, il faut aussi parfois essayer de trouver des joueurs aux 30 mètres pour 25 mètres pour frapper, essayer de faire sortir les joueurs de ces deux lignes très défensives rémoises.
Très bien, un petit tour sur la Formule 1 où on est au moment, est-ce que la voiture de sécurité va s'effacer, Jean-Luc, un de ces jours, il reste quoi, moins de quoi, 7-8 tours maintenant hein.
Oui, il reste effectivement 8 tours. Alors là, on permet aux voitures 18, 23, 3, 4, 6 et 7 de dépasser, c'est-à-dire les voitures à un tour. Là, on réagit normalement, on applique le règlement de la Formule 1 et ça permet de dédouaner et de remettre ces voitures dans le même tour que les leaders. D'accord. Ça veut dire qu'on se prépare effectivement à effacer le safety car et à relancer la course.
Bon, bah écoute, on revient dans un instant, enfin non, pas trop longtemps. On l'espère évidemment pour suivre la fin de cette course. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessier.
Et on repart tout de suite pour Bahreïn pour les 6 derniers tours de ce Grand Prix, premier Grand Prix de la saison. La donne a été changée, modifiée avec l'entrée de la safety car qui vient de s'effacer et la bagarre est relancée entre Verstappen, Leclerc et Carlos Sainz, Jean-Luc et Denis.
Et oui, c'est une bagarre formidable, effectivement. C'est un nouveau Grand Prix de 7 tours seulement qui va se dérouler, puisqu'à l'issue de ce 49e tour, eh bien, on a libéré les monoplaces. Charles Leclerc a parfaitement négocié la relance avec la Ferrari devant Max Verstappen et Carlos Sainz. Mais on a vu, Denis, que Carlos Sainz s'est montré très incisif sur le Hollandais.
Oui, il a effectivement tenté sa chance, c'était ce qu'il fallait faire. Et par contre, comme tu l'as bien mentionné, la façon dont Leclerc a négocié cet abord de grande ligne droite, de première ligne droite, une fois que le safety car était prévu de rentrer, a été parfaitement bien géré et n'a laissé aucune chance à Verstappen de profiter de son aspiration.
Et là évidemment on assiste à une amélioration des performances, puisque Charles Leclerc a signé le meilleur tour en course, maintenant le 51e en 1:34.570. On rappelle bien sûr que les monoplaces sont pratiquement déchargées de toute leur capacité de carburant et puis surtout on a chaussé des pneumatiques soft et tous les pilotes sont à égalité, je dis bien l'intégralité des 19 pilotes à l'exception du pauvre Pierre Gasly dont on sait que c'est malheureusement la casse de son moteur Honda sur l'AlphaTauri qui a entraîné la sortie de ce safety car. Et bien c'est le seul à ne pas être en course. Tous les autres sont roue dans roue et c'est un nouveau Grand Prix auquel on assiste. Et apparemment, l'avantage de Denis Charles Leclerc avec la Ferrari est tout à fait marquant. Hein. Plus de 2 secondes d'écart déjà, alors que Carlos Sainz reste dans les roues de la Red Bull Honda.
Incroyable. Oui, ben là va y avoir l'histoire de la période DRS. Est-ce que on va réussir à être dans le temps pour pouvoir jouer avec le DRS? Verstappen ne va pas l'être et peut-être que Sainz va pouvoir l'être.
Donc Sainz pourrait menacer Verstappen dans les secondes qui viennent, messieurs.
C'est exactement ça, Chris. C'est-à-dire que là, dès qu'on va pouvoir utiliser le DRS, la direction de course va libérer après 2 tours l'utilisation de cet appendice aérodynamique. Et Carlos Sainz, qui se montre évidemment très agressif, Sainz qui est parti 3e également sur la grille, hein, derrière Leclerc et Verstappen. Ça veut dire que là, on a exactement les 5 premiers dans l'ordre de la grille. Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez et Hamilton. Mais je rappelle que des péripéties, il y en a eu tout à l'heure, notamment, Chris, avec cette passe d'armes que tu as dû suivre entre Leclerc et Verstappen. C'était absolument magnifique.
Magnifique entre les deux jeunes chiens fous de la Formule 1. Et ils ont été. Voilà. En plus, impeccable, hein, Denis. Il n'y a eu aucune erreur de pilotage. On s'est respecté. C'était viril, mais correct.
Absolument. Oui. C'est ce qu'il faut. C'est
ce qu'on attend. Parce que de temps en temps, entre Hamilton et Verstappen, c'était viril, mais parfois incorrect.
Ah, ça pouvait arriver, oui, effectivement. En tout cas, là pour le moment, Charles Leclerc avec sa Ferrari toujours au commandement de ce Grand Prix qu'il n'aura pas quitté, hein, à l'exception naturellement de son arrêt au stand à un moment, puisqu'on a vu que au moment où Verstappen s'est arrêté le premier, Leclerc s'est arrêté derrière, et bien à ce moment-là c'est Sainz qui est passé devant Perez, et bien Leclerc est resté au commandement, voilà, 2 secondes 7 d'écart maintenant, après 52 tours couverts, on est à moins de 5 tours de l'arrivée, a priori ça sent bon, mais attention, ce sont des sports mécaniques et on a vu malheureusement tout à l'heure avec l'abandon de Pierre Gasly que tout peut arriver. Et le duel entre Sainz et Perez, eh bien on l'attend également, Denis, avec des performances assez équivalentes. Il y a une petite seconde et demie seulement d'écart pour le moment entre les deuxièmes couteaux, Sainz et Perez.
Oui, c'est pas fini du tout entre ceux-là, ni même certainement dans les autres qui sont dans le peloton, parce que cette règle de DRS, elle va s'appliquer pour tout le monde. Donc certainement que pour des places qui sont un petit peu moins sous les feux de la rampe, les 8e, 9e, 10e, va y avoir aussi, on peut l'imaginer, des bagarres à ce niveau-là.
Oui. La bagarre. Hamilton, hein, qui se rapproche de Perez d'ailleurs aussi.
Exactement.
Il en profite là.
Alors que Carlos Sainz revient vraiment dans les roues de Verstappen, alors qu'il reste 3 tours encore à couvrir dans ce Grand Prix de Bahreïn. Il revient dans un instant. Le foot, Reims, Lyon, Arnaud Valadon.
Et un carton rouge, non pas pour un joueur, mais pour Peter Bosch. 0-0, la demi-heure de jeu. Et franchement, un manque de pédagogie de la part de M. Hamel, l'arbitre, puisqu'il y a une faute, enfin, il y a un contact non sifflé par M. Hamel, soit sur Kadewere. C'est vrai que Peter Bosch n'était pas du tout content, il râlait alors que la rencontre se passait plutôt calmement et Monsieur Hamel s'est dirigé vers le banc de touche. On pensait éventuellement à un carton jaune parce que c'était vraiment la seule réprimande. Et bien non, il a sorti le carton rouge contre Peter Bosch, l'entraîneur néerlandais de l'OL, qui est donc parti en tribune tout simplement. Franchement, oui, il pouvait râler sur la photo, sur la faute, mais franchement, c'est assez surprenant.
Arnaud, on revient vers toi dans quelques minutes. Évidemment, on va s'installer dans ce match, mais là, la bagarre fait rage avec Carlos Sainz qui est donc passé devant Verstappen. Me semble-t-il, Jean-Luc.
Ah oui, absolument, il a placé une superbe attaque, il a pu exploiter l'équilibre aérodynamique de la Ferrari, manifestement elle est extrêmement performante, cette Ferrari de 2022, et puis il a utilisé le DRS bien sûr, Denis, puisque on l'a dit, il y a 3 lignes droites ici où les pilotes peuvent actionner cet artifice et ça leur fait gagner une bonne douzaine de kilomètres heure.
Oui, effectivement, disons que ce circuit, il est bien connu pour offrir des possibilités de dépassement. Donc on se régale et mais c'est un circuit qui effectivement le permet. Et là, on a bien vu tout l'avantage que pouvait offrir le DRS.
Elle n'a pas l'air en grande forme quand même.
Il a un problème, Verstappen. Il a un problème, il a ralenti. Il est en train de rentrer vers les stands. Oh là 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 là. Quel Grand Prix à rebondissement. Après 54 tours couverts, on l'a vu, effectivement, ne pas garder le rythme. Eh bien, Max Verstappen de retour dans la voie des stands avec un problème technique, manifestement. Et pour le moment, on a les 2 Ferrari en tête. Charles Leclerc devant Carlos Sainz, 5 secondes d'écart. Sergio Perez est 3e, Hamilton 4e devant Russell, Magnussen, Bottas, Ocon, Tsunoda et Alonso qui rentrent dans les points. Ah. Quelle déception pour Max Verstappen, Denis.
Ah oui, bah tu l'avais bien dit, Jean-Luc, il y a quelques minutes. C'est un sport mécanique et on sait tous, on l'a tous vécu, que tant que ça n'était pas franchi, tout peut arriver. Et voilà.
Avec la nouvelle réglementation, c'est vrai que la fiabilité va être un peu moindre que les saisons précédentes, hein, Denis.
Ouais, je suis pas sûr, non, parce que finalement les moteurs, c'est pas tellement changé. Hein. Donc c'est cet aéro. On sait à quel point maintenant la qualité de fabrication des pièces, les résistances, la structure, etc. Donc non, je pense que là c'est voilà, c'est les incidents. On va écouter avec beaucoup d'intérêt quelle est la pièce qui a pu causer ce souci à Verstappen.
Ouais, il fait chaud à Bahreïn ce soir, Jean-Luc. Où les conditions sont pas extrêmes non plus, même si on est au milieu du désert. Mais enfin là, il est assez tard.
Effectivement, c'est la nuit. Hein. Il fait 22 degrés dans l'air et 26 degrés sur la piste. Donc c'est pas un problème de température des Formule 1, comme le disait Denis. Puis tu sais, on a tellement de capteurs et ça, il connaît ça par cœur. On peut surveiller le moteur à tout moment. Et c'est la raison aussi, peut-être pour laquelle effectivement, Carlos Sainz était parvenu à s'approcher autant de Verstappen et à placer une attaque imparable. Alors on ignore évidemment quelle est la nature de cet incident technique. On l'apprendra un petit peu plus tard. En tout cas, voilà qui profite au Ferrari et qui met les rouges sous les feux de la rampe.
Est-ce que dans la bagarre qu'il a opposée à Charles Leclerc un peu plus tôt dans le Grand Prix, il n'a pas un peu abîmé sa mécanique? Alors les pneus, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il a fait un freinage et il a abîmé ses pneumatiques. Est-ce que le moteur peut aussi être abîmé? On sait que lorsqu'on reste derrière dans la roue d'une autre voiture, ça chauffe un peu plus. Est-ce que ça peut expliquer cet abandon?
Non, écoute, je vais laisser Denis répondre, il le sait beaucoup mieux que moi, mais je ne pense pas. Sincèrement, les conditions ne sont pas extrêmes du tout. Et puis, il y avait quelques secondes d'écart entre les deux hommes. Je ne pense pas que ça vienne de là. Hein. Je pense plutôt à un problème d'ordre électronique ou alimentation, peut-être, Denis.
Oui, non, je crois qu'il faut bien se dire que ces voitures-là, ces moteurs-là, ils sont faits pour être utilisés au maximum. C'est-à-dire que le pilote, il est là pour taper là-dedans, pour tirer dedans. C'est fait pour ça. Mm-hmm. Et s'il y a un problème, c'est pas de la faute du pilote. Dans le passé, il y avait des problèmes avec les boîtes de vitesse, on faisait des sur-régimes, etc. Là, maintenant, tout ça, c'est plus possible. Donc, s'il y a un problème technique, c'est qu'il est technique et il dépend très, très rarement d'une utilisation excessive du pilote.
Et on se dirige donc, messieurs, vers un doublé Ferrari. La Scuderia est de retour, Jean-Luc. Magnifique, les voitures rouges. Hein, le mythe de la Formule 1 est là. Ça, c'est génial.
Ah ben c'est génial. Tiens, un drapeau jaune à l'instant. Je vois un drapeau jaune qui apparaît sur la piste. Alors, je ne sais pas ce qui s'est produit. Oui, ouais, on est dans le...
Priori, ouais.
Dernier tour et un problème avec ce drapeau jaune. En tout cas, ça ne devrait pas empêcher Charles Leclerc, qui compte maintenant plus de 5 secondes d'avance sur son équipier Carlos Sainz, de décrocher la troisième victoire de sa carrière. Ben c'est un tête-à-queue, un tête-à-queue de Pérez. Oula, tête-à-queue de Sergio Pérez, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il a fait, le pilote mexicain? Décidément, c'est la déroute dans les derniers tours pour l'équipe Red Bull Honda. Incroyable là. Ça veut dire que Lewis Hamilton va monter sur le podium à la régulière. Hein. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Sergio Pérez? Est-ce que c'est un problème technique en abordant la courbe, ou bien est-ce qu'il a commis une erreur, ou est-ce qu'il a été tapé par quelqu'un d'autre? Difficile, non. Il est parti tout seul, hein, Denis, apparemment.
Oui, je pense qu'il était sous la pression d'Hamilton, qui lui aussi pouvait jouer de son DRS, parce qu'il était à moins d'une seconde, et quand on a un Hamilton derrière soi et qui était en train de revenir, je pense que on a bien l'impression que là il y a eu une erreur de pilotage, ça en donne l'impression, hein, ouais, sans vouloir l'accabler.
Christian Horner va être de mauvais poil, hein, à l'arrivée.
Ah oui,
hein.
Là il y a des chances qu'il tire un peu la tronche, comme on dit. En tout cas, Charles Leclerc maintenant a quelques centaines de mètres à parcourir pour remporter le troisième Grand Prix de sa carrière de pilote de Formule 1. Après les deux Grands Prix successifs qu'il avait remportés en 2019, on s'en souvient, le premier extrêmement émouvant, bien sûr, sur le tracé de Spa-Francorchamps, on s'en souvient, c'était après la disparition de son ami Antoine Hubert en Formule 2. Eh bien, il n'avait pas le cœur à la fête, le pauvre Charles, et il avait triomphé la semaine d'après à Monza, devant le public, devant les tifosi. La marée humaine de Monza avait fêté ce triomphe de Charles Leclerc, le deuxième. Eh bien, ce troisième, il va avoir un goût particulier pour le Monégasque, qui devance son équipier Carlos Sainz. Quelle copie parfaite, Denis. Quelle remarquable domination de l'écurie Ferrari. Les rouges sont revenus aux affaires.
Oui, ils sont rapides, ils sont fiables. Et les Mercedes sont là. Troisième, quatrième, ils ont baissé les chines, mais je crois qu'il faut surtout pas les oublier.
Ah, ils vont revenir, on va travailler du côté de chez Mercedes. En tout cas, la déroute, Chris, eh bien, c'est pour Red Bull, hein, évidemment, avec ce problème technique inconnu pour Verstappen, ce tête-à-queue de Pérez. On va continuer le classement rapidement. Premier, Charles Leclerc pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Troisième victoire de sa carrière, première de la saison évidemment. Carlos Sainz est deuxième, Hamilton est troisième, Russell quatrième, les deux sur la Mercedes. Kevin Magnussen est un formidable cinquième avec la Haas, un moteur Ferrari, devant Valtteri Bottas, Alfa Romeo, un moteur Ferrari. Ferrari. Décidément, le groupe Ferrari est en forme. Esteban Ocon, le français, est 7e avec l'Alpine devant Yuki Tsunoda, le japonais, revenu du diable Vauvert, on aurait dit, avec l'Alpha Tauri rescapé à moteur Honda. Fernando Alonso est dans les points également, il est 9e devant l'excellent chinois pour son premier Grand Prix de Formule 1, il est 10e. Et puis on trouve ensuite Schumacher, Stroll, Albon, Ricciardo, Norris, Latifi, Hülkenberg. Abandon pour Perez, Verstappen et Gasly.
Merci messieurs, merci de nous avoir fait vivre ce premier Grand Prix de la saison. Elle part sur les chapeaux de roue, notamment pour Ferrari. Doublé Ferrari, le dernier doublé c'était en 2019 à Singapour. Et déjà Charles Leclerc était dans le coup, mais il avait terminé deuxième derrière son équipier de l'époque, Sébastien Vettel. Tout va bien pour les rouges, on est ravis. Un peu moins bien pour les Red Bull. Verstappen contraint à l'abandon, tout comme Perez. Et Hamilton qui, malgré une voiture qui n'a pas l'air au même niveau que les années précédentes, eh bien va monter sur le podium. On y revient évidemment tout au long de la soirée. Merci à Denis Chevrier et Jean-Luc Roy de nous avoir fait vivre ce Grand Prix. 17h43, dans un instant nous repartons à Reims, à Auguste Delaune, pour les dernières minutes de la première mi-temps. On va avoir un peu plus le temps de s'installer dans cette partie. Sachez que vous n'avez rien loupé pour l'instant, toujours 0-0 entre les deux formations, hein. Arnaud, Lionel, pour l'instant c'est pas la régalade, hein.
Non, on a vraiment rien raté depuis un quart d'heure. Il ne se passe pas grand chose hormis ce carton rouge pour Peter Bosch, le coach lyonnais. 0-0, 39 minutes.
Ils nous attendent pour remettre un petit coup
d'accélérateur.
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Christophe Cessieux.
17h46 sur RMC, la fête pour Ferrari avec la victoire de Charles Leclerc qui s'impose devant son équipier Carlos Sainz. Le retour de la Scuderia au premier plan, c'est évidemment l'événement majeur de ce milieu d'après-midi sur RMC, et on vivra évidemment, on vous donnera tous les résultats et toutes les réactions qui ne vont pas tarder à venir. En attendant, nous repartons à Reims pour les dernières secondes de la première mi-temps entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas s'ils espèrent en vendre leurs mauvais maillots, les Lyonnais là. Qui vont les vendre, ces mauvais maillots?
Un maillot noir moches, avec des taches blanches. Je te disais un peu côté 101 dalmatien, ah ouais, ou Sco d'Angers, ouais. Newcastle. Voilà. Mais c'est pas
ou
trop.
Alors un dessin, une peinture d'enfant.
C'est pas la mère de Nick qui a mis un peu de javel.
Ouais, c'est pas terrible. Moche. D'habitude, à l'extérieur, on a parfois l'habitude d'un beau maillot bleu.
Oui.
Bleu roi, que je me souviens les dernières années quand Lyon était venu à Reims. Reims qui ne leur réussit pas vraiment, hein. Ouais. Depuis la remontée du stade en Ligue 1 depuis 2012, ils ont fait une victoire en 2015, mais c'est tout. Souvent il y a eu des défaites pour l'Olympique Lyonnais. Alors cet après-midi c'est plutôt équilibré, c'est pas un grand Olympique Lyonnais. Ils ont eu la meilleure occasion de cette partie à la 11e avec cette frappe d'Aouar détournée au dernier moment par un défenseur rémois, mais sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Ils étaient bien, hein, à un moment quand on en parlait avec Lionel, ils faisaient tourner le ballon, ils passaient notamment par les côtés avec Malo Gusto, et ils sont un petit peu arrêtés de jouer. Moment de flottement, il y a eu une grosse faute de Cacré au milieu de terrain qui lui a valu un carton jaune, et c'est là où l'énervement de Peter Bosch a commencé, et ça s'est terminé par un carton rouge tout simplement pour le coach néerlandais, mais avec un gros manque quand même de pédagogie de la part de monsieur Hamel, parce que il a protesté, mais on pouvait aller le calmer, le voir tranquillement, lui dire attention monsieur Bosch, peut-être
oui,
un avertissement,
hein,
un carton jaune. Alors il y a peut-être eu des mots, mais je pense pas que Peter Bosch soit quelqu'un qui puisse aller jusqu'à l'insulte envers un arbitre, loin de là. Donc un peu étonné de ça. À noter que la pluie fait son apparition alors qu'on avait un beau soleil il y a une petite heure à Reims. Donc voilà, c'est une rencontre assez moyenne, on va dire, pour l'instant. Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps, 0-0.
Bon, il y aura une deuxième mi-temps pour se rattraper, hein, avec des buts, on espère pour vous les garçons, hein, parce que pour l'instant c'est pas terrible.
Au moins des occasions, c'est il peut y avoir, voilà, des 0-0, mais avec des choses à raconter. Là, c'est vrai que ouais. Lionel, c'est compliqué.
Bon, ok. Comme vous avez rien à nous dire, on va s'intéresser à quelque chose qui, voilà, où il s'est passé des choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était hier soir, c'est au Stade de France. Vous avez suivi ça ou non, les garçons?
C'est la victoire de Lille, c'est ça? Non, c'est pas ça.
Le grand chelem, mais oui, la décima, le 10e grand chelem de l'histoire du rugby français avec cette victoire face à l'Angleterre et le Stade de France qui a fondu de bonheur pour ces petits bleus qui nous ont régalé. Jeff Paturo, du coup, a eu une petite nuit. Bah oui, c'est pas facile de suivre des rugbymen tout au bout de la nuit, surtout quand on commence à vieillir un peu comme lui, tu vois. Donc,
t'as mal aux cheveux, Jeff?
J'ai pas bu une goutte d'alcool. et c'est Christophe, c'est l'hôpital qui se fout de la charité sur la vieillesse. Et c'est, je crois, assez étonnant. Ah, mais là,
tu as l'air d'être mon père un peu ce soir quand même.
Ouais. Voir ton grand-père. Exactement. Bon, on n'est pas habitué à travailler sur une équipe de France qui gagne aussi. Hein.
Bah oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que fêter les victoires du 15 de France pendant des années, moi j'ai fêté les dernières victoires du 15 de France, c'était il y a quelques années.
C'était il y a quelques années. Et c'est vrai que hier c'était une magnifique journée pour le rugby français. Ça fait 12 ans qu'on attendait un grand chelem de l'équipe de France, 12 ans qu'on attendait aussi un titre dans le tournoi destination, tout simplement, le moindre trophée. Et après avoir mangé notre pain noir, qu'est-ce qu'on en a mangé du pain? Et c'est vrai que cette équipe de France, elle a fait plaisir avec une victoire tout en maîtrise hier face à l'Angleterre au Stade de France dans une ambiance bouillante. C'était un moment particulier et c'est vrai que c'est une victoire aussi qui va compter. On est à un an et demi de la Coupe du Monde et on s'est régalé hier, encore une fois, dans ce tournoi destination, l'équipe de France avec Antoine Dupont, magistral, encore une fois, meilleur joueur du monde. C'était une vraie belle soirée de rugby hier.
Vraie belle soirée de rugby et donc enfin ce triomphe pour l'équipe de France qui a maîtrisé son sujet tout au long de ce tournoi. Alors c'est vrai que l'Angleterre a offert quand même une belle résistance.
On
ne s'attendait peut-être pas à ce qu'elle soit aussi performante. On a tremblé durant.
C'est peut-être pas leur meilleur match, Christophe, non, aux Français.
Non,
aux Anglais,
les Anglais étaient plutôt dans la lignée de ce qu'ils avaient montré la semaine dernière contre l'Irlande, où ils étaient en progrès. Mais c'est vrai que les Français n'ont pas été étincelants, mais ils ont été dans la maîtrise, dans la puissance. Dans la maîtrise et la puissance. Et c'est vrai que c'est
surtout en deuxième mi-temps, hein, c'est vrai. Mais ils maîtrisaient, ils n'avaient pas le ballon, mais ils maîtrisaient tout. Il n'y avait pas de faute.
Un peu comme face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Irlande, il y a eu quand même ce petit trou d'air.
Oui, mais comme contre la Nouvelle-Zélande, comme contre par exemple d'autres équipes où on est mené contre l'Irlande il n'y a pas si longtemps dans le tournoi destination, on craque pas, l'équipe de France revient, impose sa sérénité, on va dire, et c'est vrai que c'est une victoire qui va compter pour Fabien Galthié qui va être l'entraîneur de l'équipe de France pour les années à venir, puisque la prolongation de Fabien Galthié sera officialisée dans les jours à venir.
D'accord, parce que Bernard a refusé de nous le dire
mais Fabien Galthié est en fin de contrat en 2023 et là il sera jusqu'à la Coupe du Monde 2027 voire 2028 pour préparer l'avenir, et cette victoire elle va compter. Voilà ce qu'a dit Fabien Galthié, le sélectionneur, qu'on va écouter.
Fabien Galthié.
À l'instant T, ça apporte beaucoup de joie. Quand tu gagnes, ça veut dire que tu travailles bien, que tu choisis les bons joueurs. Là, je pense qu'on a dépassé 75% de victoires à toutes compétitions confondues. Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin. Il n'y a aucune raison pour que l'équipe ne continue pas à progresser. Et cette expérience, jouer ce match avec cette tension qui, d'un coup, nous a sauté dessus. Pourtant, on l'avait abordé avec le plus de détachement possible. Il faut vivre ces matchs de finale, en fait, pour continuer à grandir. Et c'est notre 25e match. La Coupe du Monde, ça sera le 46e à la finale. C'est assez clair dans nos têtes.
Ah oui, parce que c'est jamais évident pour un jeune groupe qui n'avait jamais connu ce genre de rendez-vous, même si les Toulousains ont gagné des finales, et il y en a quand même un paquet de Toulousains dans cette équipe de France, même si certains ont aussi été sacrés chez les moins de 20 ans, champions du monde, malgré tout, ils n'avaient pas cette expérience de remporter les matchs qui comptent,
jouer une finale du tournoi à destination contre l'Angleterre dans une carrière, c'est pas anodin, hein. C'est vrai que tu l'as dit, ces joueurs, notamment, pense à Antoine Dupont, les Toulousains ont l'habitude de remporter des trophées en club, soit en top 14 ou en Coupe d'Europe, mais là c'est un niveau supérieur. Il y a des garçons, on pense à Melvin Jaminet qui joue en Pro D2 il n'y a pas si longtemps, il y a un an Melvin Jaminet joue en Pro D2 avant d'éclater vraiment contre l'Australie, et ça donne une équipe vraiment intéressante et prometteuse pour l'avenir.
Alors on va donc les retrouver, Arnaud Valadon qui nous a annoncé que la première mi-temps était terminée, c'est
voilà,
ça Arnaud?
On va aller boire un petit café, se réchauffer, voilà, petite première mi-temps 0-0 entre Reims et Lyon, le seul fait de ces 45 premières minutes, le carton rouge direct adressé à Peter Bosch, l'entraîneur lyonnais, qui est donc parti en tribune pour contestation. Ça semble assez sévère.
Merci Arnaud, on revient vers vous et avec toi et Lionel dans quelques minutes. On continue d'évoquer donc les lendemains de triomphe de l'équipe de France avec cette incroyable communion entre le public du Stade de France.
Encore une fois.
Ah ouais, ça a été magnifique. Et il y a toute une scénographie en plus désormais au Stade de France, avec le stade plongé dans le noir, juste les lumières bleu, blanc, rouge.
La vraie nouveauté, on en parlait ce week-end hier avec Bernard Laporte, c'est la Marseillaise a cappella.
On a piqué, on a copié les Écossais, mais voilà.
Ouais, mais faut
de
savoir,
temps en temps, il faut savoir prendre les bonnes idées quand chez les Britanniques ailleurs. Parce qu'ils peuvent en avoir.
Oui, c'est pas les pires, c'est les Écossais, hein, c'est pas les Anglais. Et c'est vrai que la Marseillaise a cappella, ça donne quelque chose en plus. C'est vrai que ce jeu de lumière au Stade de France. Et après, le Stade de France a explosé de plaisir. On a vu après Antoine Dupont et ses partenaires monter sur l'estrade, sur le podium pour recevoir le trophée. Après la traditionnelle chanson, en tout cas leur hymne de victoire, Freed from Desire de Gala, et sur lequel ils ont dansé. Après, ils sont allés au vestiaire. Il y a Jean Castex, le Premier ministre, qui est arrivé. Il y avait quelques célébrités. Il y avait notamment le général Alain Lardet. C'est pas quelqu'un de très connu, mais c'est le général de la Légion étrangère qui avait reçu les Bleus, ils étaient préparés à Carpiagne, qui était là aussi dans les vestiaires. Il y avait Max Guazzini, tous ont fait des photos. Après, les joueurs, eux, contrairement à nous, Christophe, ils ont bu des verres, et pas mal de verres, sur une péniche qui s'appelle le Diamant Bleu. C'était le bon nom pour l'occasion. Ça s'est fini assez tard, et c'est pas toujours fini. C'est pas vraiment fini.
Ah oui, on a vu les joueurs de l'équipe de France tweeter à 8h du matin, bonne nuit, nous disait-il.
Oui, c'est ça. Et après, ils avaient un déjeuner, et qu'ils ont continué. Et ce soir, pour certains, ils ont un dîner.
Oh là là.
Oui, et c'est les.
Ils rentrent quand en club et quand est-ce qu'ils vont
certains
jouer,
sont rentrés, d'autres rentrent demain, mais ceux qui rentrent demain, pour moi, ils vont être capoutes quelques jours.
Il n'y a pas d'obligation de repos pour les internationaux.
Il y a eu des repos, notamment pendant les matchs internationaux qui avaient pu se reposer, n'ont pas l'obligation de vacances. Ceux qui n'ont pas pu couper, c'est pour ça que certains sont déjà rentrés en club aujourd'hui, mais les autres, là, les taudiers, parce qu'il faut rappeler qu'il y en a quand même 11 joueurs qui ont été titulaires pour tous les matchs du tournoi des destinations, ceux-là, ils ont bien raison de le fêter et ils en profitent
même si évidemment à Bordeaux à Toulouse surtout on les attend avec impatience
ça va faire du bien. Après c'est vrai que ces joueurs là c'est pas sur le prochain match où ils vont être les meilleurs. Après il y a des échéances importantes, notamment la Coupe d'Europe dans quelques semaines.
Très bien, eh bien on va vivre tous ces grands rendez-vous évidemment avec les joueurs de l'équipe de France qui rentrent à la maison pour jouer la fin de saison avec leur club et puis ensuite le retour, la tournée au Japon au mois de juin
par des cadres et après une belle tournée au mois de novembre avec notamment un choc contre l'Afrique du Sud à Marseille.
Ça va être magnifique.
Ah ouais.
Et on ne va pas s'arrêter de se régaler avec ce 15 de France.
Ça c'est sûr.
Va te coucher toi.
Ah mais j'ai pas fini, j'ai encore du travail contrairement à toi.
Du travail. Je rêve. 17h56. Merci Jeff. De toute façon, on reviendra demain entre les poteaux sur le triomphe du 15 de France et on s'intéressera à la suite. Parce que maintenant, ils nous ont mis en appétit forcément. Maintenant, on veut aller décrocher
tous les écrasés du monde maintenant.
Bien sûr. On va éviter de le dire. Demain, donc entre les poteaux, n'oubliez pas votre podcast consacré au rugby. 17h56 sur RMC, on revient dans un instant. Sachez que Reims et Lyon sont à égalité 0-0 à la pause. Sachez également que Bordeaux s'est une nouvelle fois incliné, battu 2-0 par Montpellier à Bordeaux. Les autres résultats avec la surprenante et inquiétante défaite du PSG, battu 3-0 par l'AS Monaco. Victoire d'Angers qui s'impose 1-0 face à Brest. 0-0 entre Lorient et Strasbourg. Et puis Rennes continue sa marche en avant. Les Bretons qui se sont imposés 6-1 face à Metz. Et ils occupent actuellement tout simplement la deuxième place au classement. Ils sont passés devant les Niçois et les Marseillais qui s'affrontent ce soir au Vélodrome. On en parlera dans quelques minutes. 17h57, on revient dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Foot.